J'ai jamais eu autant de matos. Et pourtant, je suis journaliste. Hein. Même quand je vais faire des interviews de mecs importants, genre le boss de Blizzard ou comme ça, j'ai pas un truc comme ça.
Ah ouais.
J'ai juste mon Windows Phone qu'on pose sur la table.
Oui, des fois, ça suffit, tu vois. Genre,
Mais c'est parce que t'es quelqu'un d'important. Voilà. Plus important que les community managers de Blizzard.
C'est ça.
Je parlais du boss de Blizzard, même. Ouais.
Quatuor du crime. Le minimum qu'ils aient pu projeter, c'est d'attaquer la Terre.
Est-ce que t'as donné envie de faire du journalisme, en fait, peut-être pas forcément dans le jeu vidéo, mais en général, qu'est-ce que t'as porté vers le journalisme?
Ouais. Du journalisme, soyons très clairs, si demain c'est pas du jeu vidéo, je ferai pas du journalisme. J'ai pas du tout la fibre à être journaliste. J'ai pas spécialement envie, je me sens pas spécialement journaliste dans l'absolu. J'ai juste envie de parler de jeux vidéo, assez simplement. Je suis rentré à la presse jeux vidéo complètement par hasard, comme je disais, j'avais un job de merde où je triais des magazines de nuit parce qu'il fallait que je paye mon appartement.
Ouais.
Et donc c'était un job dans un truc, c'était pas la Poste, mais c'était une filiale privée de la Poste, ce genre de truc. Et alors que j'étais à la fac, j'avais fini ma licence de lettres, j'avais oublié depuis très longtemps, je jouais plus à l'époque, je lisais plus la presse jeux vidéo, j'avais pas internet, j'avais 24 putains d'années, j'avais pas internet en 2006. J'ai vu passer une pile de joysticks dans tous les magazines que je triais, je me suis dit ok, c'est le truc dans lequel je bossais, que je lisais quand j'étais gosse, quand j'étais ado, ce truc là existe encore. J'ai essayé de postuler chez eux, ça n'a pas marché, évidemment, les mecs m'ont jamais répondu, je vois très bien d'ailleurs, quand j'ai bossé après Joystick, je vois très bien le nombre de candidateurs qu'on recevait par jour, on en recevait au moins 3 ou 4, donc dans le tas, les mecs, il n'y a personne qui te regarde, personne ne regardait les annonces, donc j'avais répondu au hasard sur l'annonce d'un site, donc ce site de jeux vidéo PC, auquel a répondu Fabio aussi, je sais pas pourquoi il a répondu à cette annonce, il faudrait lui poser la question aussi. Et je me suis retrouvé à bosser là-dedans par erreur. On m'a offert un CDI dans le jeu vidéo par erreur. Je suis resté dans la presse jeux vidéo par confort, on va dire. Depuis 10 ans, ça fait depuis 11 ans maintenant.
Donc quand tu es rentré, t'étais même pas un gros joueur en fait.
J'avais été un très gros joueur. Ouais. J'étais toujours un. Enfin, non. J'achetais plus rien à l'époque, sinon les consoles Nintendo. J'achetais plus que ça. Et je jouais. Si tu veux, je pense qu'entre 2001 et 2006, j'ai dû jouer qu'à Counter-Strike, Starcraft, des trucs qui dataient de 99. J'ai joué qu'à ça. Absolument, c'est tout ce auquel je jouais. J'avais pas vocation à faire ça. C'est absolument pas un truc que j'ai poursuivi en tout cas. De toute façon, dans tous les cas, je pense que si tu veux bosser en jeu vidéo, le meilleur moyen, c'est de faire exactement tout ce qui n'est pas du jeu vidéo. Je pense que c'est un milieu dans lequel tu ne rentres que par hasard. Plus tu cherches à y rentrer, moins tu vas y arriver. C'est terrible à dire, mais ça s'est vérifié auprès de 100% des gens que je connais et qui sont aujourd'hui journalistes de jeux vidéo. Je connais pas un seul mec qui te dira j'ai cherché à devenir ça.
D'accord.
Et c'est.
À retenir.
Bah, moi, c'est ce que je voulais faire et finalement, je suis tombé dans la presse tech.
Bah, non, mais oui, c'est ça.
Ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas.
Puis après, quand t'as l'occasion de gratter, tiens, il y a une nouvelle console de Sony qui sort, voilà, donc tu te fais plaisir, tu fais un papier dessus.
Après, c'est peut-être différent aussi, dans la mesure où aujourd'hui, malgré tout, il y a beaucoup plus de sites qu'il n'y en avait quand moi j'ai commencé.
La difficulté aussi, c'est qu'en dehors de ça, tu as les sites, tu as les trucs amateurs, tu as aussi les youtubeurs, tu as aussi plein de trucs. Pourquoi tu sortiras du lot, pourquoi ta place, comment.
Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui parlent de jeux vidéo que c'est difficile d'arriver à sortir du lot, comme tu dis, et encore plus difficile à fortiori d'en vivre. Après, si tu regardes aujourd'hui comparativement, il y a beaucoup plus de gens qui en vivent. Mais comme tu dis, c'est des mecs qui se sont fait eux-mêmes, qui ont parlé de jeux vidéo dans leur coin, sur leur champ, sur YouTube, sur leur blog, sur n'importe quoi, qui ont fini par devenir gros auprès de leur génération, qui ont fini par intéresser les gens, on va dire, qui bossent dans les studios chez les éditeurs ou quoi, et qui ont fini par rentrer, j'ai presque envie de dire malgré eux, dans un circuit professionnel en fait. À la base, c'est des mecs qui veulent juste faire ça pour le plaisir. À l'époque où moi j'ai cherché, c'était encore vraiment. Il y avait très peu de youtubeurs à l'époque. Il y avait. Le podcast, ça n'existait pas. Enfin, de toute façon, même le podcast aujourd'hui, ça mène à rien. Enfin, en termes de profession, en tout cas. Aujourd'hui, ça mène à rien, mais en tout cas, dites-vous que ça, c'est un truc qui est en train de changer. Enfin, c'est la situation du podcast, on peut en parler encore. C'est encore un truc différent, mais. C'est maintenant que ça devient professionnel.
En ça va arriver. On est sur le créneau du podcast là.
Ouais.
Merci.
Bah, c'est maintenant que ça arrive en fait, les financements en France. Mais à l'époque où j'ai commencé dans la presse de vidéo, en tout cas, c'était les gens qui parlaient de jeux vidéo, c'était encore un truc de professionnel. Après, comment tu devenais professionnel du jeu vidéo ? C'était du hasard. Aujourd'hui, non, c'est des mecs qui ont commencé jeunes, souvent. C'est des mecs qui en ont parlé longtemps, avec peut-être un peu plus de talent et de chance que les autres, et qui ont réussi à se forger, bon gré mal gré, une communauté. Que ce soit les mecs les plus méritants ou pas, ça, on s'en fout. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Ce qu'il faut, c'est être écouté. Et ça, après, comment tu y arrives ? C'est vraiment... s'il y avait une loi là-dessus, je pense que tout le monde le ferait, quoi. Mais... du coup, je sais pas. Si je voulais commencer dans le jeu vidéo aujourd'hui, je sais absolument pas comment je m'y prendrais. J'en sais rien. Aucune chance. Ouais. Du Twitch peut-être, à la limite.
Twitch.
Tu joues sur une espèce de... Encore, c'était déjà trop tard en fait. Mais... je sais pas. Compliqué.
J'ai surtout l'impression que depuis les plateformes de streaming, c'est le statut du jeu de compétition aussi qui est en train de changer. Il y a des jeux qui cartonnent d'un coup. Moi je suis sur la scène mêlée ouais. A quadruplé en 4 ans.
Ah. Regarde, il y a 10 ans, les joueurs pro entre guillemets, les mecs qui faisaient le show, c'était Fabio, tu vois. C'était Age of Empires 3.
Ouais.
C'était des mecs. Tu sais pas d'où ils sortent, ils ont gagné 2 LAN parties locales dans leur bled paumé. Les mecs sont venus le chercher. Pour tout salaire, t'avais un putain de blouson, 500 balles et un billet de train. C'était ça la scène pro. Aujourd'hui, c'est différent. Depuis le streaming, si t'es bon tout seul chez toi, tout le monde peut le voir. Tu peux participer, tu peux t'inscrire à des compètes. T'as internet, tu t'inscris à des compètes, tu vas aller gagner une compète, tu peux être personne. Si tu remportes un truc important, bah c'est bon, c'est fait quoi, tu peux rentrer dans le circuit pro. C'était à l'époque, c'était vraiment un truc amateur, c'est Fabio. Et du coup, c'est plus la même approche en fait. Ni du médium, ni du. Le public va pas. Déjà, il y a du public aujourd'hui. À l'époque, le public c'était qui ? Le public c'était les gros nerds qui voulaient. Je sais même pas d'ailleurs, c'était des mecs qui tombaient là-dedans par hasard quoi. Où c'est que t'allais voir les compètes de Age of Empires 3 en 2006 ? C'était des replays YouTube, ça existait à peine YouTube, ça avait à peine 2-3 ans dans la gueule. Bah il fallait aller sur des sites spécialisés où il fallait que tu télécharges le putain de fichier, tu savais même pas ce que t'allais voir dessus. Ça prenait, il y avait 60 mégas, il te fallait au moins une demi-heure pour le télécharger. Tu sais pas ce que tu voyais. Il fallait être un putain de fan hardcore. Les joueurs pros d'il y a 10 ans, mis à part 3-4 mecs genre Elki, qui déjà à l'époque pouvait défrayer la chronique parce que le mec était... C'était le français qui avait gagné tellement de compètes qu'il allait jouer en Corée et qu'il arrivait à tout défoncer là-bas. Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un mec qui est... Il n'y a plus d'intermédiaire en fait. Avant c'était des mecs qui ont été bâtis par... on va dire par la presse et par du bouche à oreille. Aujourd'hui, il suffit que tu sois bon dans une compète qui va être retransmise forcément en temps réel dans le monde entier, tu vas t'en sortir. Enfin, tu vas t'en sortir. Du moins, après, tu auras un truc à faire jouer. À l'époque, non, il fallait que tu aies le soutien, il fallait que tu aies une histoire derrière. Il fallait que tu sois Elki, il fallait que tu sois le français qui arrive à aller défoncer les Coréens sur StarCraft. C'était vachement plus tendu à faire. Parce que pour un Elki, combien il y avait de Français qui étaient excellents, mais qui pour autant n'arrivaient pas à avoir une aussi belle histoire, parce qu'ils ne poutraient pas les Coréens. Ils étaient juste super bons, mais ils étaient moins bons que les 20 meilleurs qui étaient Coréens. T'avais pas la belle histoire, t'as pas la presse, t'as pas d'histoire à raconter, tu sors pas. C'est affreux, hein. Enfin, c'est les paradigmes ont changé hyper vite, en fait.
Du coup, ça me permet de te poser une question qui me taraude. C'est, du coup, quand t'as bossé dans la presse papier, t'as bossé après dans la presse web. Si tu devais un petit peu commenter les différences au niveau de la politique éditoriale, c'est quoi la différence du médium entre le web et le papier, quoi, vraiment, fondamentalement ?
Alors, j'ai l'impression qu'on a complètement changé de sujet. Là, on est plus sur Fabio, mais allons-y.
Ouais, ouais. De toute façon, on va lui reposer les questions, je pense.
Bien sûr. C'est différent. La presse, enfin, alors j'enfonce des portes ouvertes de fou, mais la presse web, tu vas être pris par un impératif qui est celui de l'information. Et c'est encore, je dis ça, c'est de moins en moins vrai, et c'est voué à l'être de moins en moins. Mais t'es pris par un impératif qui est, il faut que tu sortes sur Google. C'est les problématiques que vous avez sur le journal du buzz. Rien que le nom déjà te pousse à avoir une putain de politique. Le nom déjà, c'est ta politique éditoriale. Le journal du buzz, il faut que tu sois du buzz. Tu fais n'importe quoi, il faut que ça intéresse, il faut que ça clique, il faut qu'il y ait un pendant qui pète. Sur la presse jeux vidéo, tu vas avoir, je vois très bien, hein, entre 2006 et mi-2006 et 2007, j'ai bossé dans la presse web, donc sur un site que je te dis personne ne connaissait, mais qui avait du trafic. Pourquoi ils avaient du trafic? Parce que les mecs arrivaient sur des trucs assez pointus à être référencés. On faisait des news sur des putains de mods Arma 3. Tu fais des news sur des mods, mais seulement quand les mecs, forcément. Les mecs de jeuxvideo.com le faisaient pas, si nous on le faisait, quand tu cherches le mod à la con, tu vas tomber premier. Donc tu vas réussir à générer un petit trafic d'une petite communauté, mais seulement si tu arrives à agréger plein de petites communautés, ça fait du trafic sur ton site. C'est pas pour autant que t'as une communauté, parce qu'on avait un site qui était sans âme, mais t'avais une multitude de gens dont tu étais une espèce de référent impersonnel, et ça faisait vivre un site. Ça fait encore vivre un site. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont sur JV.com, non pas parce que c'est les mecs de JV.com, mais qui vont sur JV.com parce que les mecs, ils sortent en premier. C'est très simple. Et c'est justement, on va dire, si tu veux arriver à faire un site de qualité sur le web, c'est compliqué. Et du coup, alors, par rapport à une presse papier, dont les enjeux ont aussi changé. Parce que quand j'ai commencé à bosser sur Joystick en 2007, et ce qui fait que le magazine a fermé finalement, enfin, mis à part les problèmes de Future France, et ça va être le problème de toute la presse papier qu'il y avait à cette époque-là, c'est que cette presse papier avait refusé l'arrivée d'Internet, avait refusé le fait que les news qu'ils pouvaient publier, il y avait un nombre de pages d'actu dans ces magazines qui étaient aberrantes. Et ces mecs-là, la direction de tous ces magazines papier avait refusé le fait que toutes les news qu'on pouvait publier avaient déjà été publiées depuis longtemps sur le net. Ils se voyaient encore, et je pense que c'est encore comme ça que se voit un magazine comme Jeux Vidéo Magazine. Je peux me tromper, je ne sais pas quelle est leur vision là-dessus. Mais comme une espèce de, on va dire, condensé de l'actu jeux vidéo à l'usage des gens qui n'ont pas le loisir de passer leur journée sur le net. Tu n'as pas été sur le net parce que tu es, j'en sais rien, t'es banquier, t'aimes bien le jeu, t'es représentant de commerce, tu passes ta vie à sillonner la France, n'importe quoi, tu passes pas ta journée sur Twitter ou à regarder ce qu'a sorti Kotaku ou machin. Tu lis ça une fois par mois, tu vas être au courant, on va dire, des grands trucs qui se sont passés. T'auras pas approfondi le sujet, mais tu vas savoir que potentiellement il y a telle ou telle négociation entre tel ou tel mec, que tel jeu est sorti, il a été annoncé, machin. Voilà, t'as un condensé, t'as un précis de la presse de vidéo du monde. Seulement ça, aujourd'hui, news, preview, actu, en presse papier, ça sert plus à rien. Cette presse-là s'est effondrée, à l'exception donc d'un magazine, mais qui vit encore aujourd'hui, je pense, très bien, parce qu'il est justement le dernier, et que donc il a agrégé toute une espèce de communauté, de public, qui est désireuse d'avoir de l'information condensée. En dépit, j'ai envie de dire, du ton, après je sais pas, je vous dis ça, mais je suis très mauvais juge, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Jeux Vidéo Magazine. L'ai-je vraiment jamais lu, ça, on n'est pas sûr de ça non plus. Mais donc peut-être que j'ai même une mauvaise image de Jeux Vidéo Magazine au sens... bref, on s'en fout. Donc je me figure mal ce que je me figure mal.
On avait un dans les mains en juin dernier, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est de la news résumée, quoi.
C'est ça. Et ce truc-là aujourd'hui, c'est typiquement ce que fait jeuxvideo.com en 10 millions de fois plus exhaustif que toi. Tu ne sers, quand tu fais ça, mis à part effectivement, si tu n'as pas accès à Internet, ce truc-là n'a pas d'intérêt. Tu n'as pas d'intérêt à avoir cette presse-là. En revanche, sur une presse papier, que ce soit, là je vais parler de, évidemment je m'en maquais, mais je parle de JV, mais je parle aussi de magazines comme Canard PC, qui sont des mecs que j'aime beaucoup lire au demeurant, parce que j'y retrouve, même si ça a changé, mais un héritage du joystick que j'aimais lire quand moi j'étais ado. Malgré tout, c'est eux qui ont gardé un peu ce côté un peu pas je m'en foutiste, mais en tout cas revendicatif, et un peu on peut prendre le lecteur de haut, on peut balancer dans insultes, mais on s'en fout. Fais pas ça dans JV. On a quand même une ligne un poil plus neutre, même si on y met du ton, on le trouve autrement que dans le, on va dire un peu dans la couleur de chaque rédacteur. On va chercher à donner une couleur globale au magazine. C'est la différence entre les deux, je pense. Mais ces mecs-là vont... et pourtant, c'est des mecs qui font de la news, preview, test. C'est rigoureusement ça, Canard PC. Mais ils le font avec une plus-value. J'achète Canard PC, j'achète la plus-value et j'achète la sélection de l'info. C'est ça que je prends quand je prends Canard PC. Quand je prends un truc comme JV, il y aura finalement très peu de... les trois quarts des jeux qui seront sortis, on n'en parlera pas. Ou alors on en parlera tellement tard que le truc sera déjà vieux et que si tu vas en parler à tes potes au moment où tu lis le magazine, ils vont te dire « Ouais, j'ai joué le mois dernier. » Bien sûr, bien sûr. On le sort avec un mois de retard, le magazine, c'est sûr. Tu peux pas lutter contre ça. En revanche, on va essayer de faire du... on va essayer de faire du dossier, des machins que n'ont peut-être pas le temps de faire les magazines sur le web. Ou alors, s'ils le font, on va dire qu'ils le font malgré tout dans un sentiment qui est plus urgent aussi. Eux, ils vont le faire en termes de... t'as des papiers comme ça, j'y vais comme ça, existe. Des papiers un peu plus poussés, ils vont appeler ça d'ailleurs des dossiers, littéralement. Mais tu sais que c'est fait en urgence, malgré tout. Qu'il y a quand même un sentiment, même si le mec il a écrit, a le sentiment d'avoir plus de temps, que pour lui c'est un papier, et c'est sûr que pour lui par rapport à son quotidien d'abattage, ça va être un truc qui va être plus réfléchi, et ça va lui faire, je pense que pour les mecs qui bossent là-bas, c'est un vrai plaisir d'écrire ces papiers-là. Malgré tout, ils auront peut-être pas tout le temps que nous on a pu avoir. Et autant eux, ils font ça pour de l'image, surtout ça mon point, ils font ça pour de l'image, genre on fait pas que de la news et machin, mais regardez, on fait des dossiers. Nous, c'est notre fonds de commerce. Si on arrête de faire ça, notre magazine il est mort, je suis au chômage demain. C'est la grande différence. Aujourd'hui, c'est ça. C'est que les mecs vont tomber sur ces dossiers par hasard sur JV.com parce qu'ils ont navigué là-dessus et que c'était gratuit. Moi, les mecs, je sais qu'ils ont acheté mon magazine pour ça. Parce qu'ils ont payé pour ça à la base et pas pour avoir des news. C'est ça la différence. Il y a une réalité qui est très simple. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Fabio a 34 ans lui aussi. Je n'ai pas envie de faire le test du prochain Animal Crossing quand j'aurai 58 ans ou 65. Ça, c'est une vérité. J'aime beaucoup le jeu vidéo.
Quand tu as des personnes comme AHL qui...
Bien sûr, mais le jeu vidéo c'est une passion, autant je pense que j'ai envie d'arrêter de dépendre de ça en fait. J'ai envie de... je pense que je ferai ZQSD aussi longtemps que je veux. Je pense que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, parce que c'est un podcast, qu'on parle de jeux vidéo, que je suis avec des potes, que c'est gratuit, que le jeu vidéo ça me plaît. Mais j'ai envie d'autre chose que du jeu vidéo au quotidien en fait. Quand je travaille, il y a d'autres trucs qui m'intéressent dans la vie, il y a d'autres envies que j'ai. Le truc c'est d'arriver... Si tu veux arriver à trouver un équilibre de vrai bonheur dans ta vie, il faut déjà arriver à ce que ton boulot ne te fasse pas chier. Parce que ton boulot, tu passes au moins 8 heures par jour, au moins. Tu vas avoir des boss qui sont potentiellement relous. Tu vas avoir des impératifs qui ne te feront pas plaisir, qui font que tu vas peut-être pas te lever le matin de bonne humeur. Le jeu vidéo, ça me fait plaisir d'aller bosser pour bosser dans le jeu vidéo tous les matins. Ça me fait plaisir d'aller bosser avec des potes aussi. Après... si demain je pouvais avoir, là malgré tout je rentre dans une espèce de routine, j'ai fait ça depuis 11 ans, c'est bien, mais seulement j'ai un cerveau qui fonctionne plutôt bien, je le pensais en tout cas, et j'aimerais bien arriver à faire autre chose, c'est bien, il n'y aura pas que ça dans ma vie.
D'où ta BD Barouf.
D'où la BD Barouf, d'où le fait que pendant le chômage avec Fabio on a essayé de faire de la pub, qu'on a essayé de faire des courts-métrages, on a essayé de faire plein de trucs avec une réussite relative certes, mais il y a juste une volonté à un moment de se dire ma personne ne se limite pas à ça, et c'est bien ce qu'on fait. Je pense que lui comme moi on adore faire ce qu'on a fait, que ce qu'on a fait à Joystick c'était vraiment, tu peux lui en parler hein, je pense que c'était vraiment pour lui un âge d'or tout comme ça l'a été pour moi, c'était génial, c'était des années d'insouciance vraiment, parce qu'aujourd'hui à JV par exemple on galère plus, tu vois, on a une plus petite équipe, on n'a pas les moyens que pouvait avoir que pouvait aligner Future France quand on bossait à Joystick, des problèmes financiers on n'en avait jamais quoi. On n'était pas payé comme des princes, mais en tout cas, on n'avait jamais le besoin de se demander est-ce qu'on a assez d'argent pour imprimer le prochain mag, est-ce qu'on peut faire, je sais pas, est-ce qu'on peut se déplacer pour aller à tel événement, machin. C'est vraiment des trucs que j'ai à gérer aujourd'hui et qui font que c'est du jeu vidéo, oui, c'est ça qui fait que je suis encore là-dedans en fait. C'est juste que je suis plus que dans la presse jeu vidéo, je suis aussi dans la gestion d'une boîte, tu vois. C'est que j'ai délocalisé un peu mon centre d'intérêt, je fais plus qu'écrire sur du jeu vidéo. Je participe aussi à la vie d'une boîte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, écrire sur du jeu vidéo, ça me... c'est presque accessoire en fait, c'est le bonus. C'est le bonus. Écrire sur le jeu vidéo, c'est bien, mais ce qui me plaît avant tout, c'est de faire tourner une boîte avec mes potes. C'est ça, le challenge avant. Après, c'est ça. pour ce serait, si JV le mag c'est cool, on ferait tourner une boîte de j'en sais rien, ce serait de la production audiovisuelle sur n'importe quoi, avec mes potes aussi, ça m'intéresserait. Là le jeu vidéo aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Et je pense que pour Fabio, c'est pareil aussi, il a envie de faire d'autres trucs. Tu lui proposerais demain de bosser dans l'édition de bouquins de jeux vidéo, bah ça lui plairait plus, parce que tu le rapproches de deux mondes qu'il aime aussi. Il adore le jeu vidéo, même si t'as l'impression qu'il a fait aucun jeu, même si tout ce que tu veux. Effectivement, c'est vrai qu'il joue, de moins en moins, parce qu'il a des impératifs au taf qui font que bah, il est plus au contact des jeux. Mais malgré tout, c'est un truc qu'il aime. Et si tu le fous demain sur deux trucs qu'il adore, à savoir les jeux vidéo et les livres, genre chez Sort d'édition, je pense que c'est le mec le plus heureux du monde. C'est tout, c'est juste que... est-ce qu'on sortira de ça? J'en sais rien. C'est peut-être qu'on est... si j'avais la réponse, peut-être que je serais déjà parti, ou alors je te dirais, bah non. Le simple fait que je me pose la question me laisse le fait que je suis incertain. Mais je sais pas. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment spécialement de volonté à partir du jeu vidéo. Il y a une volonté de faire autre chose dans le jeu vidéo. Ouais. Ça oui. Pour lui comme pour moi, je pense.
Je disais merci à Selvain d'avoir accepté, parce qu'on s'était vu rapidement. En plus, j'ai une image bizarre sur Twitter. Je sais pas s'il y a des gens random qui te demandent comme ça, viens.
C'est arrivé assez rarement, mais c'est arrivé à l'occasion. Après, c'est vrai que quand on a fait ZQSD, et on l'a monté en association aujourd'hui, il est très clairement écrit dans nos statuts que nous, on a envie de faire du podcast et autant que possible d'aider les gens qui veulent faire du podcast à en faire. Et c'est con, mais ça passe par un truc très con, parce qu'on a fait ça quand on a fondé l'association. ZQSD marchait déjà plutôt bien en termes de podcast de vidéo en France, et donc on commençait à avoir des gens qui s'intéressaient parfois à nous. Enfin, c'est très rare, tu vois, mais... et on s'est dit, bah écoute, quand des mecs te demandent d'aller les voir, si t'as moyen d'aller le faire, essaie de le faire, quoi. Si ça peut aider ou quoi, pas...
Là, c'est vrai que j'aime bien le nouveau format que vous avez fait, la ABCD.
Ouais.
C'est cool, ça aussi.
Qui est pour le coup un truc de Sophie, enfin de Force Heureuse, ouais.
Ouais, Force Heureuse. Ouais.
Dans lequel elle a repris, c'est rigoureux en termes de chronique et de découpage de l'émission, c'est exactement le même que ZQSD au final. T'as des news, t'as un dossier, un invité, t'as un truc à la fin, culturel, machin. C'est exactement la même chose, mais juste décliné sur un format différent. Et c'est vrai que ça me fait plaisir, moi aussi, parce que c'était un premier essai, et ça nous paraissait un peu bah, casse-gueule, mais on était curieux avec les autres mecs de ZQSD de voir ce qu'elle allait faire. Et là, au final, une très chouette émission où tu vois que dès que... parce qu'il y a juste elle et Diraen, donc, qui a déjà participé à plusieurs émissions, mais elles sont potes toutes les deux depuis très longtemps, et où tu vois que dès que tu as deux potes qui sont ensemble et qui arrivent à être, on va dire, un peu à l'aise devant un micro, mais juste à se dire, bon bah, faut pas meubler à tout prix, il faut juste que tu racontes un peu. S'il arrive à se passer une alchimie entre deux potes, trois, plus, s'en fout, ton émission, après, derrière, elle sera intéressante. Il faut que le son soit pas trop crade. On a appris ça dès le début aussi, c'est qu'on s'est rendu compte de ça. Un podcast où le son est pas bon, c'est un podcast que t'écoutes pas.
C'est ce qu'on a pensé au début, en fait.
Et si tu fais un podcast sur... c'est con, hein. Même entre... si tu fais un podcast sur... autour d'une table ou un podcast sur Skype, la différence, elle s'entend direct. C'est audible, c'est même pas technique. Parce que c'est même pas... parce que tu peux corriger, si tu veux, la petite seconde qu'il y a de décalage entre les mecs sur Skype ou quoi. Mais juste, en termes d'alchimie, de regard des mecs, où tu vois... Tu les entends presque rire, en fait, ou sans regarder, ouais. Tu vois. Et ça, c'est un truc, ton podcast, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, mais il a une thématique, qui est celle que tu veux. Nous, c'est le jeu vidéo, vous avez visiblement un truc un peu culture geek, un peu machin. Tu peux attirer des gens via une thématique, et si tu veux que les gens restent, ils restent pas pour la thématique, ils restent pour les gens qui font l'émission.
C'est ça. Comme la période du Capitaine,
bien sûr.
Comme vous êtes sur les yeux, bien,
bien sûr.
Tu t'en fous du truc, c'est le mec qui a que t'écoutes, quoi. C'est ça.
Mais enfin, je pense que vous êtes QSD, c'est très con, mais on avait un seul modèle et c'était la période du Capitaine.
Oui.
On s'est très vite rendu compte que le mec, il pouvait aborder n'importe quoi. Le mec, il peut te parler d'aspirateur, de n'importe
quoi.
Tu t'en branles. Il te parle d'aspirateur pendant une demi-heure.
Sur la cacahuète.
Ouais.
Pourquoi la cacahuète?
Si les mecs t'en parlent et qu'ils sont en train de se foutre des vannes, c'est bon, ça marche, tu l'écoutes pour ça. Tu les écoutes pas pour leur dossier de racailles, c'est clair. Tu les écoutes parce que c'est eux, parce que les mecs sont cool. Après, sur un malentendu, tu peux avoir de l'info, mais c'est pas l'important. Enfin, du moins, c'est pas dans ce genre de podcast familial. Après, t'as avoir des formes, des émissions, genre typiquement ce que fait Béja, où il est tout seul avec des invités. Lui, il a un seul créneau, c'est l'information, la régularité, le professionnalisme. Et ça joue énormément, tu vois.
C'est une autre approche.
Mais ouais, mais il y a un truc, une erreur classique que j'entends dans beaucoup de podcasts. Alors j'ai pas écouté le vôtre du coup, donc je sais pas comment ça se passe, mais quoi, mais
une erreur qui fait beaucoup de présentations.
Une erreur classique que font beaucoup de mecs qui font des podcasts, ouais. C'est d'essayer d'être le plus pro possible.
Ah ouais.
Le plus pro possible.
C'est-à-dire faire de la radio, en fait.
D'essayer de faire de la radio, de faire un truc hyper carré, un truc timé, machin. Et ça, c'est une connerie. Parce que pro, de fait, rien que de par le fait que tu n'en vis pas. Et que t'as pas un médium de diffusion gigantesque, genre typiquement une antenne de radio, ou alors un site gigantesque, genre Gamecube, tout ce que tu veux, tu n'es pas pro, tu touches pas d'argent pour ça, tu n'en vis pas. Et du coup, ce que t'as à vendre, c'est autre chose, quoi. Il faut que tu te démarques du lot des autres mecs qui vont essayer de faire la même chose que toi, de la même façon. Et c'est difficile. Si tu rentres dans cette compétition de on va dire de l'information, du truc carré, du truc j'allais dire opportuniste, c'est pas du tout opportuniste, ce que j'ai en tête, c'est fédérateur, leader d'opinion, t'es foutu. Parce que des mecs qui ont fait ça avant toi, il y en a plein.
À se sortir du lot, en fait, parce qu'il y a 36 000 des podcasts, et au final on n'a pas, moi j'en ai pas autant écouté que ça, j'adore ça maintenant, mais c'est pas un peu brillant.
En même temps, si tu regardes un podcast audio de 3 heures pour t'informer, c'est le pire des médias pour ça.
Oui, c'est sûr.
C'est pas du tout adapté. Quoi. Parce que moi, j'attends 2 semaines avant de regarder un podcast, j'attends d'avoir un créneau horaire qui correspond à la durée du truc.
Ça dépend, moi, parce que moi, c'est de QSD, comme j'ai qu'une demi-heure aller-retour pour aller à l'école,
Tu fragmentes, quoi.
Bon, bien sûr, après, ce que ça va avec le podcast de iTunes, c'est que tu te remets une minute avant et t'attends de te remettre dans le bain. Je n'ai pas écouté les hors-série là pour l'instant, mais.
Les hors-série, c'est enregistré avec un seul micro, ça reste. Il y a une réverb de fou.
Ouais.
Comme ici,
c'est comme si t'es publié ça en fait.
Ouais, pas loin. Ah merde. Ouais.
Par contre, il va falloir que j'aille pisser. Niveau, il n'y a rien de personnel, mais là, il faut vraiment que j'aille pisser.
Deux
pains de. C'est génial.
Après, ça va être de la crosse, de la pissette, quoi. C'est vrai qu'elle est pas très.
Moi je reviens de Bruxelles.
T'as un peu du mal.
La première gorgée, j'ai fait ah. C'est vrai. Pardon.
Alors en ce moment, tu as. Le podcast en France, c'est amateur.
Ouais.
D'accord. On va prendre les rares exceptions de gens qui arrivent à en vivre. Tu vas avoir.
Patrick Béja,
bien sûr.
C'est tout.
Patrick Béja. Mais qui a lancé, lui, du podcast en 2006, à une époque où ça existait à peine, qui a une communauté qui s'est forgée, à la force du... Enfin, voilà, ça fait 10 ans qu'il fait ça, il a fêté ses 10 ans, là, il n'y a pas si longtemps. Encore aujourd'hui, ce mec-là, qui, je pense, est l'un des plus successful en France, vient d'une scène amateur, arrive à vivre grâce à l'argent des gens qui l'aiment et qui le suivent depuis 10 ans. Donc il a conquis le cœur de ces gens-là. Le podcast n'est pas un médium de masse encore aujourd'hui en France. C'est différent. Il n'y a pas eu encore le Sériol français. Vous connaissez Sériol ?
Oui.
Le podcast. Podcast, si tu veux, en 2012 ou 2013 ou comme ça, aux États-Unis, il y a eu un podcast qui s'appelait Sériol, lancé par des mecs de This American Life, c'est une radio, qui ont lancé une émission qui ne passait pas à l'antenne, mais qui était diffusée par le podcast. Cette émission, elle avait un concept, c'est-à-dire que ils avaient 10 émissions d'une heure environ, pendant lesquelles ils réouvraient un cas de meurtre de 98, et après ils font un travail journalistique, la nana va te raconter qui elle a interviewé, qu'est-ce qu'on sait sur cette affaire, est-ce que les mecs s'en souviennent, est-ce que bref, elle essaie d'élucider un truc. C'est quelque part entre l'enquête live façon show télé-réalité et le format mensuel du podcast et la radio. C'était un format un peu bâtard, machin. Ce truc-là a eu un succès immense. Et l'émission est fabuleuse. Franchement, écoutez ça, écoutez la saison 1 de Serial, c'est incroyable. Ce truc-là, à chaque début d'émission, avait un truc qui se fait pas mal aux États-Unis depuis, qui se faisait un peu avant, mais surtout depuis cette époque-là. Tu vas avoir environ 20 secondes de pub, c'est-à-dire que la présentatrice de l'émission, elle est seule, va te lire un truc genre « Ah oui, envoyez vos mails avec MailChimp », c'était ça le truc à l'époque. Avec MailChimp, vos mails en portent plus vite, vous ferez de meilleurs business, machin et tout. Des pubs complètement connes, du placement produit pur et dur, certes, mais elle s'en foutait, parce qu'elle faisait ça pendant 20 secondes au début, 20 secondes à la fin, ça finançait l'ensemble de son podcast. De la réalisation, de la production, tout ce que tu veux. Ce truc-là a un succès de fou, ils ont renégocié les contrats, finalement ils ont viré MailChimp, ils ont pris un autre annonceur. Si tu réécoutes la même émission aujourd'hui, j'ai été surpris de faire ça, j'ai réécouté Serial, cette première saison, à 2 années d'écart, l'annonceur a changé. C'est-à-dire que les mecs ont repris la même émission, ils ont changé la pub du début, elle l'a relue elle-même, parce que c'est de la pub directe, c'est pas une pub qui a été enregistrée en studio, c'est elle qui l'enregistre. Elle a relu un truc, ils ont remonté le podcast, ils le repackagent. Aujourd'hui, je pense que sur la saison 1 de Serial, les droits des publicités sont encore renégociés de façon annuelle, parce que le truc se télécharge encore de façon incroyable. En France, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les peu de mecs qui gagnent de l'argent avec le podcast en France, aujourd'hui, c'est des mecs qui, parce qu'ils ont une communauté, parce qu'ils ont des fidèles, arrivent à recevoir des dons et du coup à en vivre. C'est le cas de Béja. Nous, on a un podcast avec un Patreon qui marche pas mal avec ZQSD, mais c'est au final, c'est quoi? C'est 1100.
C'est une question qui m'a toujours interloqué. Pourquoi Patreon et pas Tipeee? En fait, parce que quoi, c'est plus mondial, Tipeee? Enfin, Patreon c'est moins cher, c'est quoi? Pourquoi en fait les gens ont commencé par Patreon et pas.
Nous on a pris Patreon pour une seule et bonne raison. Enfin, je reviens sur ta question. Mais parce que Patrick Béja avait déjà réussi sur Patreon. Et que on s'est dit, s'il y a déjà un certain nombre de mecs, on sait, nous, via les flux iTunes, via les rassemblements qu'il peut y avoir de temps en temps de gens qui écoutent du podcast ou quoi, qu'on partageait une partie de notre audience avec cet homme-là, et qu'on se dit, si jamais on part sur ce truc-là et qu'il peut dire aux mecs, genre, on va être liés, en fait. Dans les podcasts, les gens qui ont participé au Patreon de Béja vont avoir en recommandation ZQSD dessus.
Ouais.
Parce que c'est français, parce que c'est un truc qui est français et dans le high-tech, le jeu vidéo marche bien aussi, ça va être lié et donc on aura des retombées quelque part. À l'époque, Tipeee était pas. Il y avait beaucoup moins de trucs. Genre, tu vois, quand on s'est lancé, si je dis pas de bêtises, t'avais pas encore de mecs genre Le Voir du Grenier, des trucs comme ça qui s'étaient lancés. T'avais pas encore de youtubeurs non plus.
Ouais.
La scène française sur Tipeee, quand on s'est lancé, n'existait pas, tout simplement. Au final, c'est une connerie, parce que Patreon, les mecs payent en dollars, la plupart des mecs sont français, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent à l'aller et au retour. L'argent qu'on touche, on a perdu de l'argent dans les deux sens.
C'est ce que je me dis parce que je donne à
c'est complètement con. Si aujourd'hui on devait le refaire, on referait sur Tipeee.
C'est ce que je me dis parce que j'ai donné à ZQZ et à Radio Kawa, et j'ai fait le calcul, j'ai fait merde, mais au final, je donne un peu plus parce que, voilà quoi, eux ils gagnent que 50 centimes sur le truc, quoi. Je me dis merde, c'est un peu con, alors que si c'était sur Tipeee, l'euro, il serait gagné l'euro, quoi. Je me dis merde, bon.
Bien sûr. Parce que franchement, enfin, après si on part, c'est vrai qu'on a des gens qui nous donnent de l'argent. Enfin, quand on regarde sur ZQSD, il n'y a pas tant de mecs que ça. Il y a 300 mecs, je crois, qui nous donnent de l'argent. En tout cas, c'est une moyenne de 3 euros par personne. Salut, merci. Mais on a
3 dollars, je crois, un peu plus parce que j'ai voulu donner 3 euros. Mais il faut que je donne un peu plus pour donner l'équivalent de 3 euros. Je sais plus combien je donne, mais ça me fait un check par mois.
Je sais pas quel est le ratio ou quoi, mais en gros. Grosso modo, on a de promesses de dons tous les mois, on a 1150 $, on touche environ 1000 €. On a des pertes au taux de change, encore ça s'est équilibré avec l'euro qui s'est un peu dévalué, qui est revenu au niveau du dollar plus ou moins. On perd moins. Enfin,
j'ai vu Radio Kawa, il est suisse, donc il y a une conversion.
C'est beaucoup plus sale.
J'ai fait waouh, j'ai fait. Attends, mec, je veux te donner 5 euros, qu'est-ce que tu.
Non, eux ils perdent trop d'argent.
Je comprends pas, tu vois. J'ai eu du mal, donc j'ai un peu arrêté Radio Kawa.
C'est vrai qu'après, si on regarde, on a des mecs qui nous donnent de l'argent du Mexique, on a des Japonais, on a des trucs, des Vénézuéliens, des machins complètement. Tu penserais pas qu'il y a un Français expatrié là-bas qui a rien d'autre à foutre que de donner 3 euros tous les mois. Mais si, il y en a plein. Il y a quelques-uns en tout cas. Et donc, bon, c'est pas pour eux. Eux, ça les arrange sans doute de payer en dollars et pas en euros, mais au ratio, on y perd. C'est complètement con. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a fondé notre communauté, on va dire. Monétaire là-dessus, on change pas. Si on changeait demain, je pense qu'on perdrait trop d'argent. Enfin, on perdrait trop d'argent. En même temps, on s'en fout de l'argent. Mais... Enfin, bref, c'est encore un autre débat. Mais donc, tout ça pour dire qu'un mec comme Béja vit de ça. Parce que lui, il a.
Il a combien d'émissions? Il en a une dizaine.
Il en finance deux. Il finance le rendez-vous tech. Il fait, si je dis pas de bêtises, il en a 1000. Mais il y a des missions monétisées, il a le rendez-vous tech, il en monétise deux par mois, qui sont à environ 2 200 $.
2000 euros,
ouais, par émission, il en fait deux par mois. Et il a le. Comment ça s'appelle ? Le Phileas Club, qui est un podcast en anglais. Il y a un podcast en anglais de. Recommandations et des news culturelles, on va dire mondiales, sur d'autres. Au final, je pense qu'il doit toucher quelque chose de l'ordre de 5 000 $ par mois avec les taxes et les machins. C'est un mec qui en vit très bien. Je pense qu'il doit toucher quelque part quelque chose comme 4 000 € par mois. Il est seul. Nous, on touche 1 000 balles par mois, on est 8. Autant te dire que même se verser de l'argent si on voulait, ça servirait à rien. Enfin, ça ne servirait à rien, mais vu qu'en plus on est une association et tout, on aurait tellement de taxes sur le truc que si on devait se payer au lieu de le Patreon de ZQSD, on toucherait 50 balles par tête à tout péter. Donc c'est pas la peine de faire ça. Maintenant, nous, on est issus de, on va dire, un peu de l'école Béja, apéro du Capitaine, payé par la communauté. T'as des mecs qui sont en train d'arriver aujourd'hui, qui sont des mecs de. Qui s'appellent Binge. Alors, ils font des podcasts qui sont No Ciné, No Game, No. Je sais pas, ils en ont plusieurs. Il y avait Badass au début.
Ça, c'est Jean Z.
Au tout début, c'était ça. Jean Z présente No Game. C'est pas lui qui est instigateur du truc. L'instigateur du truc, c'est Joël Ronez, un mec qui bossait, si je dis pas de bêtises, à France Inter il y a quelques années. Donc un mec qui vient de la radio, qui a environ 50 ans, et qui lui a décrété, parce qu'il a l'influence dans les milieux, on va dire, audio, que le podcast en France, c'était le moment, et que Binge, sa société de production, donc, allait lancer des podcasts professionnels. Aujourd'hui, des podcasts comme... comment ça s'appelle ? Comme No Game, pour dire ça, parce que c'est en jeu vidéo et que donc du coup je vois un peu ce qu'ils font, présenté par Jean Z, où il y a des chroniqueurs à chaque fois. Tous les mecs qui participent à cette émission sont payés. C'est un truc donc professionnel. Ils sont payés de misère, ils sont payés à l'émission et ils sont mal payés pour tout dire. C'est vraiment pas un truc dont ils vivent. S'ils peuvent se faire un bar en fin de mois avec ce qu'ils ont touché pour faire une émission, c'est déjà bien. C'est incertain, mais ça arrive. Ce mec-là, en tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est fonder un pôle de podcast. Il met les moyens, il paye aujourd'hui, il fait ça à perte. Et il embauche des gens qui sont, on va dire, a priori compétents dans le milieu. Sur un truc genre No Game, tu vas avoir Jean Zé, qui est quand même le mec des jeux vidéo de France Inter. Donc c'est quand même un mec qui... que tu l'écoutes ou pas, que tu trouves qu'il soit bon ou pas, c'est un mec qui en tout cas a une écoute, une grande écoute, même s'il a peut-être pas d'auditeurs fidèles, mais ça c'est encore autre chose. C'est un mec qui est respecté dans le milieu. Il va avoir en tant que chroniqueur des mecs comme Corentin et Yann qui sont à ZQSD à JV, donc des mecs que je connais très bien, qui ont pu participer à des émissions là-bas aussi, pour lesquelles ils sont payés. Donc c'est un mec qui essaie de faire pour chacune de ses émissions, il essaie de constituer une espèce de Dream Team. Il prend des espèces de X-Men, des mecs qu'il va payer, mais les gars c'est des mercenaires. Ils vont là, autant te dire que autant Jean Z que Yann, que Corentin ou quoi, quand ils vont là-bas, c'est parce qu'ils sont payés. Ils y vont pas spécialement parce que c'est du plaisir ou quoi. Mais du coup, à l'écoute, tu l'entends. C'est un truc effectivement très radiophonique. C'est des mecs qui savent de ce dont ils parlent, mais c'est des mecs qui en parlent sans passion et dans un format qui est carré, parce que t'as pas la liberté de te sentir toi-même dans un format comme ça. Tu sens que t'es payé, tu sens que les mecs attendent un truc de toi, seulement ce qu'ils attendent de toi, c'est être professionnel. Et t'es jamais plus, on va dire, lisse que quand t'es professionnel. Parce que tu vas essayer justement de te conformer à une certaine idée que peut avoir ton patron du mec qui l'a embauché. Et il t'a pas embauché parce que t'étais un mec qu'il a trouvé incroyable, il t'a embauché parce qu'il pensait que t'étais un mec compétent. Ouais. Et donc c'est ce que tu lui donnes, de la compétence. Et il n'y a rien qui est moins radiophonique que la compétence brute. Parce que t'écoutes des mecs qui sont bien, mais seulement t'as l'impression qu'ils prennent leur parole, enfin le truc à tour de rôle, et c'est un peu nul. Et donc, aujourd'hui, malgré tout, ce mec-là, et le problème c'est que je pense, il va avoir du mal à y arriver, c'est peut-être pas lui qui va y arriver à le faire, mais il a sûrement la bonne démarche d'intégrer justement des publicités en début de ses podcasts, de monétiser un peu à la sérieule, ouais. Avec en lisant, ce truc-là est présenté par Acer, on a enregistré l'émission sur un XP, HP Expect, X360, machin, du coup faire de la pub pour un truc qui te paierait tes intervenants. Ça me paraît compliqué de dire que ce mec-là va y arriver aujourd'hui, parce que en France, malgré tout, contrairement à un truc comme Serial, il va avoir du mal à atteindre une masse critique d'auditeurs qui soit susceptible d'influer Monsieur Acer. Monsieur Acer, il va regarder ses chiffres, il va dire c'est quoi le podcast en France, on va lui montrer les chiffres de... Enfin, il va se faire estimer les chiffres de podcasts qui marchent bien, typique genre Béja, typique l'apéro du Capitaine, pourquoi pas ZQSD ou quoi. Il va voir les chiffres, il va se dire ok, c'est peut-être mieux que la moyenne de ce qu'il y a, mais c'est négligeable. Moi, je vais pas vous filer 2000 euros pour faire une émission qui va rapporter 15 000, 20 000, 30 000 auditeurs dans le mois. C'est pas ça que je vais faire. Parce que... Et la masse critique, je pense qu'il l'aura pas. La formule est pas encore née. Il a il a la bonne idée, arriver à faire un truc carré, professionnel, avec de la pub au début. Il a le bon, on va dire, moyen qui est de multiplier les domaines, de pouvoir dire à un annonceur je peux te vendre de la pub sur 7-8 domaines différents, 7-8 podcasts différents. Mais aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est un peu d'identité. Or, aujourd'hui, tout le podcast français qui s'est construit est un podcast identitaire, uniquement, exclusivement, depuis 10 ans. Et la transition va être un peu longue, je pense, mais elle va arriver. Ça va arriver. Et ça, enfin, je sais que c'est un truc, en tout cas, auquel qu'avec Corentin à ZQSD, on regarde de très près, parce que le jour où ça va arriver, on veut être dedans. On veut pouvoir dire, on a l'identité, on veut bien être un peu plus... On veut bien se vendre, hein, s'il y a de l'argent, mais on verra bien.
Moi, je vois pour ma part, pour ce que j'écoute en anglophone, ouais. Moi j'écoute 3 podcasts anglophones qui sont le Smodcast, Idle Thumbs et Welcome to Night Vale. Et les deux premiers, c'est de l'identitaire. Enfin, quand t'es avec
Chris,
t'es avec son pote, quoi. T'es dans un délire de copain. Après. Il fait des podcasts avec sa mère, avec ses copains, et il y a ce côté identitaire, mais. Tu vois, il y a toujours cette question que j'ai, c'est, je sais pas si tu vois un peu Welcome to Night Vale, ce que c'est. Mm-hmm.
Je vois.
Je me dis, est-ce que ça peut être exportable en France ? Est-ce qu'aujourd'hui on a la maturité, est-ce qu'on a le public pour un podcast dans ce genre-là qui est plus dans le rapport formel que dans le rapport identitaire en fait ?
C'est compliqué.
Surtout le Smodcast. Kevin Smith, je pense que vu comment c'est fait, je sais pas si pour en écouter que deux, et après mon anglais est pas terrible, mais ouais, je sais pas si on arriverait un jour à faire ça. Sur le mec qui arrive, son réalisateur qui fait un podcast et ensuite qui vient avec son producteur, je sais pas.
La masse critique est un vrai problème pour un podcast comme ça. La masse critique en France aujourd'hui en termes de podcast, elle n'existe pas. Les mecs qui existent le podcast sont très largement minoritaires. C'est des mecs qui sont jeunes ou alors ils ont mon âge mais ils sont technophiles. Sinon ils ont plutôt votre âge. Et encore même je pense que parmi les mecs de votre âge, des mecs qui écoutent du podcast, il y en a, c'est pas qu'il y en a peu, mais en tout cas ils sont pas majoritaires, clairement. Ouais. C'est pas un réflexe. Après, le problème c'est qu'on a en France aussi, c'est que c'est petit en termes de population, mais c'est petit en termes de taille aussi. Bah. Tu n'as pas le temps d'écouter un podcast. Parce que, mis à part si tu habites à Paris, si tu habites à Lyon, si tu as un boulot vraiment où tu as le temps de prendre la bagnole le matin, la plupart des mecs en France, vu que le pays est petit, où tu bosses pas très loin de chez toi, je sais pas si t'as le temps de vraiment te plonger dans un
format. Mais là ce que je peux, en faisant un peu un recul et en voyant, parce que je connais des personnes qui sont un peu jeunes, aujourd'hui ils sont sur le YouTube et qu'ils passent sur le vlog, tu vois. Alors que le vlog ça veut rien dire, au final c'est pas super intéressant et ça dépend de qui tu suis.
Bien sûr.
Mais voilà, nous là on parle de podcast, mais il y en a beaucoup qui passent du temps sur des vlogs que des gens regardent leur vie. Et
c'est
ça,
le problème
c'est
aussi.
C'est un peu décevant. Alors c'est pour ça qu'il y en a comme l'original ou d'autres, je sais pas, trucs qui publient sur YouTube pour essayer de faire du podcast sur YouTube. Mais je sais pas si ça marche. Je sais pas si les gens répondent à écouter parce que aujourd'hui c'est YouTube,
non, pas sur YouTube.
Qui est écrasant quand même. Enfin, aujourd'hui c'est YouTube.
En France, bien sûr. Mais il faut pas oublier aussi que si le podcast peut s'imposer aux États-Unis. Pour moi, c'est aussi un truc qui a l'air très lointain, mais qu'il faut vraiment pas négliger, c'est que c'est un pays qui a la culture de la bagnole. T'es aux États-Unis,
la culture
de la bagnole.
Ouais.
Tu passes beaucoup de temps dans ta bagnole et dans ta bagnole, et ben c'est con, mais des vidéos, tu les regardes pas. C'est un pays qui a la culture de la bagnole, c'est un pays qui a la culture, donc du coup, qui hérite d'une culture de la radio que déjà nous, on n'a pas. Donc si tu pars du principe que le podcast aujourd'hui, c'est la radio numérique, c'est la radio à la demande, ce truc-là, déjà en France, le besoin de radio existe peu, mis à part, ça va être des trucs vraiment pendulaires, je pars en vacances avec mes enfants dans la Côte d'Azur. Quoi. Mais ça fait déjà une énorme différence.
Peut-être.
Tu vas avoir du...
Moi j'ai aimé le podcast, j'ai beaucoup aimé le podcast parce que je passais quand même une heure et demie dans les transports en commun. Parce que, alors quoi, je fais même pas 20
km. Mais parce que t'es parisien.
Oui, je suis parisien.
Ouais. Ben oui. Mais c'est un argument qui marche à Paris,
oui.
C'est un argument qui marche à Lyon.
C'est vrai.
Ou c'est que ça marche ailleurs en France,
oui.
Mis à part quelques mecs qui.
Enfin, pour avoir des amis qui habitent en Bretagne, sans voiture, tu peux rien foutre. Et là-bas, pour te déplacer, là, t'as bien ta petite heure.
Ouais, mais tu fais des petits déplacements. Tu fais des petits déplacements.
Oui, je suis d'accord. Moi, je fais une demi-heure de transport maintenant tous les jours en voiture. Et j'écoute 4 fois ZQSD. Donc, 4-5 fois ZQSD pour essayer d'écouter le truc. Donc, c'est un peu long, quoi.
Ouais.
Quoique, maintenant, je suis arrivé sur les podcasts musique. Donc, pour essayer de.
Guillaume, tu parlais des vlogs tout à l'heure, mais c'est la même chose. Enfin, au lieu que ton temps parte dans YouTube, dans de la télé, dans, je sais pas, même en jouant, à lire, à quoi que ce soit. Ouais, du podcast.
Oui,
du podcast, on a aussi vidéo. Enfin,
bien sûr.
C'est
bien sûr que tu pourrais.
Saturé.
Bien sûr que tu pourrais. Mais c'est. Je sais pas. C'est un truc qu'on a peu malgré tout en France. Enfin.
Tu as les retours de Slate,
En termes de podcast?
Slate tente de balancer des podcasts.
Bien sûr, oui bien sûr, parce que j'ai parlé de tout ça, mais à la base c'est quand même parti de Slate, hein, le podcast en France. Il y a eu cette espèce de, j'allais dire une shitstorm, mais c'est vraiment une tempête verre d'eau de fou. C'est à la base la réflexion qui a donné lieu derrière justement à des espèces de grandes conférences organisées justement par Binge et Ronez, c'est que quand Slate a dit on va faire du podcast, eux dans leur idée c'est on va faire du podcast façon sérieuse, on va faire du podcast à l'américaine, on va faire du gros podcast qui touche les masses, du podcast trendy qui va toucher les mecs un peu connectés, qui veulent se sentir intégrés dans une société qui est différente, qui a changé. Bah c'est ça, enfin je vois lever les yeux au ciel.
Il y a un truc que je trouve très drôle, c'est que tu disais que le podcast tu vas le chercher en fait, toi-même.
Ouais.
C'est ça à la base en fait, internet au départ.
Bien
c'est
sûr.
Un truc, un portail, et tu vas chercher ton info. Et je trouve qu'on est aussi trop habitué à ce que ça te tombe dans le gosier en fait. Et le truc qui vient automatiquement.
Bah, le truc c'est qu'aujourd'hui...
S'il y a moyen de retrouver ce côté, on va chercher, on va fouiller, retrouver des trucs.
Aujourd'hui, autant... Pourquoi les gens cherchent plus sur internet? Parce qu'ils ont Facebook. Pour 90% des gens qui sont pas dans la tech ou quoi, qui sont ton père, ta mère, compliqué, ta cousine, internet c'est Facebook, ouais. C'est ça qu'ils vont aller chercher. C'est leur seul point d'entrée sur, on va dire, les news internet qu'ils vont aller chercher. Aujourd'hui, si jamais il devait exister un Facebook du podcast, ce serait iTunes. Seulement iTunes, mais ne sert pas le podcast du tout. Il l'a même.
Était là avant Facebook.
Ouais, mais en foutant le podcast comme une espèce de Apple, en vendant, on va dire, le podcast, ces émissions-là, comme une espèce de truc gratuit, fait par des passionnés à la base, a instauré une norme. Le podcast, c'est gratuit. C'est eux qui ont fait ça. À la base, tu fais ça parce que les mecs faisaient ça chez eux parce qu'ils voulaient diffuser leur podcast et que personne va acheter un podcast qu'il ne connaît pas, d'accord, une émission qu'il ne connaît pas. Personne ne te donnera 1€ pour un truc qu'il ne connaît pas. Et donc tu vois ça comme une plateforme de lancement. Seulement, ils ont fait ça comme une plateforme de lancement au lancement même du médium. Et donc du coup, ils ont établi tout le système comme étant un truc auquel tu accèdes gratuitement. Et ils ont perverti le truc parce que tu te retrouves avec une... Aujourd'hui, c'est facile de faire un podcast. Concrètement, demain, tu veux lancer un podcast, tu as un Zoom comme celui-là. Tu peux le faire. Théoriquement, dans ta chambre, tu peux faire un podcast avec n'importe qui, ton pote, ton voisin, tout seul. Vas-y. Ton iPhone, regarde les marchés parlés de Navo, c'est un truc, c'est étonnant à écouter. Parce que le mec fait ça en marchant, il a son iPhone, il a son putain de micro, et il te fait un podcast enregistré au micro, qui est téléchargé 20 000 fois par mois. Bonjour. Le podcast n'existe pas, ce mec-là fait des audiences qui sont pourtant considérées comme énormes dans un domaine qui est lui-même mal vu, quoi. C'est dément. Et le problème c'est que ce que iTunes a fait aujourd'hui du podcast, tu ne pourras pas le défaire. Tu peux plus revenir en arrière, en fait. Tu peux plus revenir là-dessus. Tu es obligé de passer par en force, en fait. T'es obligé d'avoir une audience tellement monstrueuse que même si t'es gratuit, tu vas réussir à convaincre des mecs, des annonceurs, de te donner de l'argent pour arriver à passer. Cette masse critique, des mecs comme Serial, de This American Life, ont réussi à le faire aux États-Unis parce que culture de la bagnole, parce que public anglophone est mondialisé, parce que tout ce que tu veux. En France, okay, putain, c'est l'Everest, quoi. C'est l'Everest, et tu parles escalader en sandales, quoi. Ça paraît compliqué, mais c'est malgré tout, c'est maintenant que ça commence, très doucement, et c'est un truc qui, je pense, via une espèce de saturation de YouTube, qui fait que... On se calme et on se fout sur la gueule.
Le match c'est de la merde. Le PSG
de mon bon. Ok, là ça commence à être les barman qui sont en train de se défoncer avec ça. Je suis désolé, c'est passionnant.
Non mais oui, c'est passionnant.
En même temps, c'est une soirée classique au château d'eau. Hein. Là on n'est pas au château d'eau, mais en général c'est ça. Hein. S'il faut le dire très clairement, je pense que le podcast est à l'abandon depuis que ça a été créé. En vrai. C'est un format qui n'a jamais été utilisé. Donc c'est encore différent. C'est un médium dont se sont emparés très peu de gens. Ouais, je sais pas. Qui est sûrement voué à devenir à rester marginal parce que tu vis dans une ère de l'image, un truc, mais je pense que.
Tu vois que les habitudes se défont tout de même. Regarde, si tu prends la presse JV sur les sites, ça commence à tempérer un peu la course à la news. T'as quand même des changements aussi qui se font.
Il faut qu'il y ait une rupture.
Non, je le sens comme ça. Tu peux pas continuer éternellement avec un certain format, un nouveau truc, d'avoir du renouveau.
Il faudrait qu'il y ait une rupture pour ça. Et une rupture aujourd'hui dans le monde du podcast, il peut pas y en avoir dans la mesure où il n'y a pas de modèle vraiment établi. Le podcast est un truc marginal qui n'est pas voué à connaître une rupture, qui est voué à connaître, si jamais il la connaît, une professionnalisation. Mais c'est
si
encore.
Une professionnalisation, tu tues le truc.
Mais c'est toujours pareil. Alors là, si rupture il doit y avoir. S'il doit y en avoir une seule, ce sera la fin des antennes émettrices et des radios. Le jour où France Inter arrêtera de diffuser en continu et te dira « Ok, bah nous on fait plus que du catch-up radio. » On arrête de faire 24h sur 24 parce que bon, finalement, on a que sur 24h d'émission qu'on fait, il y en a peut-être 6 qui marchent vraiment et qui sont écoutés et qu'on va faire que ces 6-là et qu'on va les balancer en VOD, en mode comme ça. On va arrêter la quantité. Parce qu'on est dans une ère de la quantité malgré tout, et on va se restreindre sur un truc qui marche. Alors je ne vais pas dire forcément de la qualité, parce que c'est pas la qualité qui marche. Pas forcément. C'est pas comme ça que ce sera trop simple. C'est c'est un truc qui arrive à toucher une masse critique. Et la masse critique, il n'y a pas d'algorithme pour la toucher. Ouais, la rupture, je pense que s'il y a une rupture pour le podcast, c'est la fin de la radio. Autant te dire que c'est quand même pas demain que ça va arriver. Bon, en tout cas, les prémices, ça commence aujourd'hui. Avec un certain déport de la pub. Il y a un mec, il y a quand même un truc qui m'a épaté. Moi, on fait ZQSD depuis 3 ans. On regarde rigoureusement, enfin, on va dire... on regarde où est-ce qu'on monte, on grimpe dans les trucs, les classements iTunes qui sont complètement... enfin, l'algorithme iTunes, on comprend pas comment il marche, bref, c'est complètement arbitraire. Enfin, ça l'est pas, mais ça a l'air arbitraire de loin. Nous, on sait que nos chiffres d'audience sont en constante montée. Mais on a vu débarquer un mec qui sortait de nulle part, qui a fait un podcast qui s'appelait Chose à savoir. Chose à savoir, je vous invite à regarder, c'est soir lancé iTunes chez vous.
Il y a 50 000 épisodes de ce truc.
Les choses à savoir.
Les choses à savoir.
Les choses à savoir. Tu regardes ça, ce mec-là, il est constamment dans les 10 premiers podcasts qui marchent sur iTunes. Il a commencé genre il y a un an et demi. Il s'est tout de suite installé très haut. Il a éclaté la moitié des émissions de France Inter, de France, France Culture, tout ce que tu veux. Et le mec n'en a pas bougé. Aujourd'hui, c'est un mec qui a un fonctionnement à la sérieule et des machins. On dit que Béja, c'est le mec qui vit le mieux du podcast. Non, c'est faux. Je pense que le mec qui vit le mieux du podcast, c'est le mec qui fait Chose à savoir. C'est un mec tout seul chez lui. Son concept d'émission est ultra basique. Il en fait une tous les jours. Il va t'expliquer un truc à savoir. Exemple concret, pourquoi le soleil est jaune. Il va t'expliquer ça en 1 minute 30. Sur 1 minute 30, il va passer 15 secondes à te dire « Ah ben, achetez le shampoing Eden Schulders, le shampoing Eden Schulders, ça. » Lui, c'est un mec qui sort de nulle part, qui a réussi vraiment à décrocher des publicités parce que c'est un mec qui marche. On n'en parle pas, parce que c'est un mec qui vit dans l'Ardèche, on n'en sait rien. Et pourtant, ce mec-là, aujourd'hui, en termes de podcast, c'est le mec en France, je pense, qui marche le mieux. Et ce mec-là, si tu regardes, tu lui dis « Pourquoi le soleil est jaune ?» Va sur la page Wikipédia du soleil, tu vas te rendre compte que, grosso modo, il te paraphrase ce qui est expliqué sur pourquoi le soleil est une couleur jaune. Il va te faire ça pour tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que, quand tu mets un sucre dans un verre, il fond ?
Parce que je comprends ça.
Il t'explique ça, une semaine.
Parce que j'ai un peu une expérience sur YouTube, mais tu parles d'un mec qui fait des podcasts tous les jours. Ok, et qui arrive à exploser tous les podcasts parce qu'il publie abondamment. Mais au final, est-ce que c'est pertinent ou pas? Mais là, tu m'expliques effectivement le phénomène qui se passe sur YouTube. YouTube veut absolument que tu postes une vidéo tous les jours.
Bien sûr.
Et que là, tu remontes dans les tendances.
Non, mais iTunes c'est bâti comme ça aussi. Hein.
C'est horrible.
iTunes, non, mais iTunes, plus souvent tu postes, meilleure sera ta position. Nous, on l'a vu cet été pendant qu'on postait, on a posté, on n'a pas fait d'émission canonique cet été, on a fait plein de hors-série. On a posté pendant 3-4 mois d'affilée, on a posté deux émissions par mois. Pour nous, il y a eu un break très clair entre le 41 et le 42 qui a duré quasiment 2 mois et demi, 3 mois quasiment. Mais on a fait plus d'émissions que jamais finalement. Et avec des spring breaks à la con, on est parti en Bretagne, on est en Allemagne et machin. Et on a fait tellement d'émissions qu'on a bondi dans les classements iTunes. Et dès que tu bondis dans les classements iTunes, tu bondis en termes de notation d'étoiles, tu bondis en termes de commentaires sur ton truc. Et ça fait que dans iTunes, tu classes très haut. On s'est classé pendant cet été, on s'est classé, je crois, dans le top 20 des émissions tout court. En fait, toute émission, tout podcast confondu. Ça n'avait aucune logique. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, toujours pareil, on ne connaît pas l'algorithme. Ce mec-là, en postant tous les jours, multiplie par 30 par rapport à nous ses chances d'arriver à attirer des gens. Et donc, il est monté très haut. C'était très haut dans iTunes aujourd'hui. C'est quasiment le seul arbitre de la notoriété d'un podcast. C'est où est-ce qu'il est dans iTunes. Alors que c'est pas représentatif du tout.
C'est horrible, finalement. Parce que tu peux pas produire autant de...
Sur Pod Radio, ça se passe comment?
Comment?
Sur Pod Radio. C'est pas Pod Radio le nom de l'application?
Si. Okay. Podcast Addict, non mais.
J'ai bugué.
Pod Radio, c'est une plateforme de production de podcasts aussi qui existe et qui essaie de promouvoir aussi des podcasts. Il y en a plein, mais ils ont tous des algorithmes différents. On sait que chez. On n'a aucun contact chez Apple, évidemment. Personne n'en a. En tout cas, on sait que chez Podcast Addict, les mecs nous disent, en termes de podcast indépendant, donc surtout ce qui est podcast téléchargé sur des Android, donc déjà toute la moitié de la population, potentiellement, on était, en termes de podcast indépendant fait par, pas par une radio justement, le second derrière la période du Capitaine en 2015. Et pourtant, on a des chiffres qui sont bien, mais qui sont, par rapport à un YouTuber qui a 12 ans, on n'est rien du tout. On n'existe pas. T'as des mecs qui ont 12 ans qui font 500 000 vues, tu comprends pas comment, sur une émission à la con. On va t'expliquer pourquoi son... pourquoi son cahier de texte il est trop bien, tu vois. Veux dire, même un truc comme ZQSD aujourd'hui qui se classe bien en termes de podcast, c'est peanuts, quoi. On n'est rien par rapport à ça. Et, mais on connaît pas le... On pourrait demander peut-être le l'algorithme de Podcast Addict, mais je sais pas, ça serait très... ça ferait peur, je pense.
Sur YouTube, il y avait un truc... du coup, je leur... Il y avait un truc de fou furieux que j'ai vu, c'est des critiques de youtubeurs sur d'autres youtubeurs. J'ai vu apparaître ça.
Alors ça, on appelle...
Ça oufissime. Je sais dans un YouTube-ception un peu.
Bah, tous les espèces de clash, les machins, bien sûr.
Ouais, bah, ça part des dramas et des...
Voilà, c'est des dramas. On appelle ça maintenant le drama. Ça commence... Ça pullule sur YouTube américain. Et j'ai peur que ça vienne en France. Ça va venir en France.
C'est déjà là.
Oui, mais...
Ça existe en France.
Les critiques de youtubeurs, de critiques d'autres youtubeurs. Critique autre chose, trois fois la même chose, et pourquoi?
Mais c'est, enfin, c'est normal, je veux dire, quand tu as...
C'est le réseau qui s'auto-alimente, je trouve ça vraiment...
Ouais.
Non mais, non, attends. Il faut remonter loin. Regarde le début de la presse papier.
Oui.
T'as des magazines genre... Regarde un truc comme qui te paraît aujourd'hui que lisait peut-être ta grand-mère. Tu regardes Paris Match. C'est ça. Ouais. Paris Match, tu parles de gens connus sur lesquels tu dis de la merde. C'est des gens sur lesquels tu espères avoir du croustillant à un machin. Je veux dire, le drame, c'est le propre... Bah c'est putain, c'est tragique à dire, mais c'est le propre de l'humain que de chercher à avoir du drame là où il y en a même pas, putain. De te dire, ce mec là, ah je le connais, attends, je le connais, ah il lui arrive une saloperie, putain, mais bien sûr que ça incite au clic. Et donc, si tu parles d'un mec qui est connu, tu te dis de base que tu peux attirer d'autres gens. Si tu parles de plein de mecs connus sur un malentendu, tu peux arriver à attirer plein de fois. C'était de la peur, enfin, c'est une belle référence, mais on peut tromper mille fois une personne. C'est ce que tu fais en parlant à chaque fois d'un mec, d'un youtubeur différent. Tu vas attirer mille personnes qui écoutent ce type là une fois. Seulement après ton tour de force, j'ai envie de dire, c'est que tu parles de deux youtubeurs qui sont écoutés par le même public. Donc tu vas arriver à tromper deux fois, enfin mille fois deux personnes, tu vois ce que je veux dire. En parlant de deux youtubeurs différents, tu vas avoir mille mecs qui les écoutent et qui vont t'écouter deux fois. De loin en loin, tu vas devenir une espèce de sommité qui va faire que, enfin, une espèce de mec référence du drama qui va faire que, bah, t'as plein de mecs qui vont t'écouter pour parler d'autres mecs que peut-être ils écoutent. Au bout d'un moment, ils t'écoutent. Et c'est un cercle vicieux, enfin, c'est la presse à scandale, tu vois. Mais le problème de ce truc-là, c'est que t'es obligé de... C'est toujours pareil. La presse est une bouche qu'il faut tout le temps nourrir, donc t'es obligé d'aller chercher du drama même quand t'en as pas. Et donc au bout d'un moment, tu passes... Ces mecs-là finissent toujours par passer pour des charlots parce que tu dis des conneries au bout d'un moment. Parce que tu veux faire une émission. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois, j'en sais rien, je connais rien en YouTube.
Moi je me demande, quand je vois le podcast de Patrick Faume qui lit des nouvelles de science-fiction, je vois le truc de Davo qui fait les marchés parler, qui a lancé plein de gens dedans, je vois les trucs de l'original qui changent un peu à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas une redéfinition des formats, des codes? Est-ce que le podcast n'est pas en train de s'étendre justement à d'autres formats, à d'autres formules?
Disons que dans la mesure où c'est le moins écouté, le moins consulté des médiums, je pense que c'est forcément l'espace de liberté le plus grand. Et c'est des mecs qui arrivent à, on va dire entre guillemets, trouver du succès, ou du moins trouver du public, parce que justement ils sont anticonformistes. Mais parce que personne n'attend rien du podcast. quand t'écoutes un podcast, tu sais pas vraiment ce que tu vas écouter la première fois que t'écoutes un truc. C'est un mec qui t'a souvent dit, écoute ça, c'est bien, ou alors t'as entendu parler des gens. Ça marche encore beaucoup sur du bouche à oreille, et qu'il n'y a pas de format canonique. On t'a pas dit, un podcast réussi, c'est ça. On te l'a pas encore dit. Une émission télé qui marche, aujourd'hui, ça va paraître complètement con ce que je dis, mais on va te dire, fais Michel Drucker, tu vois. Fais une émission du dimanche, invite un invité qui parle à un maximum de public, arrive à leur raconter justement, encore une fois, scandale, arrive à leur raconter un peu de sa vie privée, les backstage, le machin, et t'auras de l'automate. Parce que t'es un média qui s'impose aussi, t'es la télé, t'es un média unilatéral. Et le podcast ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, les mecs qui écoutent du podcast sont des gens curieux, donc sont des gens qui sont encore à l'écoute de formats différents. Et ça, je pense que ça joue énormément.
Pourquoi ce bar? Est-ce que tu as déjà fait cranter ce bar avant pour un peu changer du podcast, un peu déprimant?
Bien sûr, c'est parce que je bosse à environ 150 mètres d'ici.
Je crois que tu l'avais déjà
c'était
dit.
C'était juste par complète facilité.
Oui. Ouais.
C'est, quand on a la flemme d'aller au château d'eau, on vient ici. Quand on vient juste pour boire une bière, on vient ici.
Mais c'est marrant parce que c'est plutôt cool. C'est la zone à côté, mais là c'est cool.
Ouais. Mais c'est le cas de beaucoup de bars dans le coin. Enfin, c'est toujours pareil. C'est, on est dans un coin, gare du Nord, gare de l'Est, qui sont des coins où ça zone à mort, où t'as un paquet de mecs sans le sou qui viennent pour essayer de faire fortune et se faire une nouvelle vie et qui donc tombe dans le larcin, mais alors que t'as vite fait de cataloguer comme ah c'est les étrangers et puis c'est des conneries comme ça, il faut pas dire ça. Ce qu'il faut dire c'est que c'est des points d'attraction incroyables qui font que le quartier, forcément sur la masse, peut être mal famé et peut être un quartier où t'as pas envie d'aller zoner. D'ailleurs, tu te dis pas spontanément je vais aller zoner.
J'adore ce poteau à côté de toi quoi. Les faux, parti gauchiste.
Bien sûr.
Ouais, c'est waouh.
Mais c'est un lieu qui est propice à avoir des rencontres, on va dire, insolites. Mais après, à côté de ça, dès que tu pars, genre là où on bosse avec JV, c'est une cour intérieure. La rue est dégueulasse. Et dès que tu franchis la porte, le truc, t'as une cour intérieure de fou tout en pierre. Avec un lierre incroyable, le truc est génial, quoi. C'est trop beau les locaux qu'on a. Et je pense que c'est pareil pour un peu toutes les rues des fossés dans le coin, t'as des super bars. T'as des super bars.
Ouais.